France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique. Un livre est sorti de l'autre. Tous les livres qu'on fait, on les rate. C'est pour ça qu'on en fait d'autres. Claude Simon disait ne jamais savoir comment allait commencer un livre, ce qui allait se passer. Il regardait ce qui allait venir. Au début, ce sont des choses, puis ça devient quelque chose, ajoutait Claude Simon au micro de Francine Mallet. Écrivain du XXe siècle, deuxième volet, Claude Simon, texte lu par Michel Bouquet.
Peut-être ce serait bon de rappeler pour les critiques qui ont dit que j'écrivais d'une façon compliquée. Je cite souvent un mot de Cocteau que je trouve tout à fait remarquable. Il dit « Pour le lecteur, le style, c'est une façon compliquée qu'a trouvé l'auteur de dire des choses simples. Et en réalité, dit Cocteau, le style, c'est la façon la plus simple qu'un auteur a trouvé de dire des choses extrêmement compliquées. » J'aime beaucoup cette formule-là.
Évidemment, un rapport s'établit entre la composition de Claude Simon et son écriture. La structuration de sa phrase a une parenté avec celle de la composition de l'ensemble de son œuvre, de la composition de chacun de ses livres ou des différentes parties de ceux-ci. Pourtant, ses méthodes de composition sont très diverses, il nous l'a dit, nous l'avons vu. Et il y a une écriture de Claude Simon. Une écriture qui respire selon Claude Simon et qui, comme la composition, colle à l'action. Ainsi, il y a aussi dans son écriture bien des manières de respirer, bien des tentatives, des approches, des tâtonnements pour perfectionner la précision du dire. C'est la raison pour laquelle Claude Simon considère comme balbutiement ses œuvres passées, ayant conscience de ses progrès continus, du résultat de ses efforts. C'est la raison pour laquelle la période où il s'est rapproché de Faulkner, et que lui ont reproché certains lecteurs hâtifs, n'a été qu'un moment des expériences de Claude Simon, qui de toute façon n'a rien du théoricien.
L'autre jour, nous avons parlé du nouveau roman, je vous ai parlé de nos réunions, etc. Ben, du moins, en ce qui me concerne, je n'ai pas du tout écrit pour démontrer des théories ou pour appliquer des théories.
Non, il n'y a rien de systématique en vous. Ça, je l'ai bien vu en lisant votre œuvre entière. C'est un fait qui m'est apparu souvent. Vous n'êtes pas systématique.
Du tout.
Mais entre le système et le procédé, il y a quand même loin.
Je voudrais savoir exactement ce que vous entendez par procédé.
Eh bien, dans l'herbe, vous avez des notations de bruit et de silence qui sont associées à des senteurs ou à des sensations.
Oui.
Ça, ce n'est pas un procédé, bien sûr. Non. C'est une manière de penser et de sentir.
Oui, une manière de penser, si l'on veut, oui.
Bon, et c'est surtout une manière d'exprimer ce que l'on pense.
Là, nous retombons encore. Je ne crois pas que ce soit l'écriture moyen d'expression, encore une fois. C'est une manière de dire.
C'est une manière de dire.
Dire ce que l'on pense, je n'oserais pas... parce que dans dans son acception courante, le mot « penser » a une résonance pensée spéculative. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, oui.
Bien entendu, tout est de la pensée. Un discours de Platon, c'est de la pensée. Et un masque nègre, c'est aussi de la pensée. N'est-ce pas ? C'est produit par le cerveau de l'homme, n'est-ce pas ? Mais en général, quand on dit pensée, on voit le philosophe, n'est-ce pas ? On voit l'homme qui remue des idées. Ce n'est pas mon cas.
Oui. Ce que j'ai cherché, là, maladroitement en parlant de procédé, c'est que vous insistez souvent sur le fait que vous travaillez beaucoup, que vous ne savez rien faire vite. Mais je voudrais vous faire admettre que lire Claude Simon ne peut pas se faire vite non plus.
Je l'en ai bien relâché.
Et beaucoup vous le reprochent, ce qui est stupide.
Enfin, ce n'est peut-être pas stupide s'ils aiment lire vite. Pourquoi ? La lecture, ce n'est pas une obligation ni un devoir, encore une fois, c'est un plaisir. Ça me rappelle toujours, il y a un fameux disque de Pablo Casals qui s'appelle La Répétition, je ne sais pas si vous l'avez entendu, il dirige un orchestre à Genève et c'est très intéressant parce qu'il interrompt les musiciens pour faire reprendre. Alors, je me rappelle toujours de ça, quand les gens me disent « on doit en art, on doit ou on ne doit pas ». Et à un moment donné, ça commence, il joue, et là, il tape avec sa baguette de chef d'orchestre, il arrête, et il dit, c'est très très bien, c'était de très très bons musiciens, c'était l'orchestre de Genève, ou je ne sais pas, vous jouez très bien, il leur dit, mais ne soyez pas crispés comme ça. La musique, avant tout, il dit, mais c'est du plaisir, il leur dit, c'est ça. La lecture, c'est du plaisir. Si quelqu'un est ennuyé, il ne faut pas lire. Il n'y a pas une...
Mais je ne pense pas qu'ils sont ennuyés.
Question d'obligation.
Ils trouvent seulement que pour vous lire, il faut une espèce de code. Je l'ai vu souvent sous la plume des critiques. Ludovic Janvier a écrit « Il est évident que ce ne sont pas d'abord les images, mais les mots qui s'appellent. C'est le langage en corps et en système qui constitue le fil tenant et proposant l'ensemble. »
Absolument juste. Bon. Très, très bien.
Et, pas très loin de cela... il dit, dès les premiers mots du roman, et il s'agit d'histoire, quand du faible caquetage des oiseaux, nous passons par les mots au bavardage des vieilles femmes en visite chez la mère du narrateur, l'un sortant de l'autre comme et parce que le second bruit de mots sort naturellement du premier, nous savons que la pente du discours est déclarée que nous tenons le mouvement du récit.
Bon, parfaitement.
Alors voilà, Ludovic Janvier, lui, il a compris le code.
Absolument. Mais vous appelez ça un code ?
Mais je crois qu'à partir du moment où on a parlé, on a utilisé
une sorte de code.
On ne peut pas faire autrement.
Ce code-là, c'est pas la parole, le discours, ce sont toujours les mots. Les mots ne sont pas les choses ne sont pas les mots. On parle avec des mots. Vous connaissez la fameuse histoire de Degas et de Mallarmé. Degas, qui était un grand bonhomme dans la peinture, mais il essayait de faire des vers. Vous ne connaissez pas l'histoire. Et il dit à Mallarmé un soir, il dit, vous pourriez être mes conseillers, j'ai commencé un sonnet et j'arrive pas à le finir. Et pourtant, dit Degas, mais j'ai des idées. Et Mallarmé lui répond, mais mon pauvre ami, un poème, ça ne se fait pas avec des idées, ça se fait avec des mots.
Michel Bouquet nous lit les premières pages de « L'herbe » de Claude Simon.
Mais elle n'a rien, personne, et personne ne la pleurera. Et qu'est-ce que la mort sans les pleurs ? Sinon, peut-être son frère, cet autre vieillard. Et sans doute pas plus qu'elle ne se pleurerait elle-même, c'est-à-dire ne se permettrait de se pleurer, ne penserait qu'il est décent, qu'il est convenable de... Mais... Elle ne tait rien, non, dit Louise. Elle ne tait rien, non, répéta-t-elle docilement. Mais elle continuait à regarder devant elle quelque chose qu'il ne pouvait pas voir. Alors rien, dit-elle. Regardant toujours par-delà les arbres, les prés, la paisible campagne de septembre, ce quelque chose qu'il ne pouvait pas voir. Rien, elle ne s'est jamais mariée. Elle n'a peut-être jamais eu l'idée qu'elle pouvait avoir le droit. Avec ce frère de 15 ans plus jeune qu'elle, et qu'elles ont élevé, elle et celle qui est déjà morte, dont elles ont réussi, à force de réfléchir aux meilleurs moyens, de porter une robe à peu près 3 fois plus de temps qu'il n'en faut pour s'user jusqu'à la trame, au tissu dont elle a été primitivement faite, à faire un professeur de faculté, ce qui, pour 2 institutrices dont le père et la mère savaient tout juste lire, ou peut-être même pas du tout, a sans doute dû paraître valoir la peine de renoncer à tout ce à quoi une femme peut prétendre avoir normalement droit. Et quand nous nous sommes mariés, Georges et moi, elle m'a donné cette bague. Elle m'a fait venir dans sa chambre. Et c'est la première fois que j'ai senti cette odeur, ce parfum, exactement comme celui d'une rose desséchée, ou plutôt, puisqu'une rose desséchée ne sent rien, celui que l'on imagine qu'elle devrait exhaler, c'est-à-dire quelque chose qui serait à la fois fait de poussière et de fraîcheur. Et j'ai regardé sa table, sa coiffeuse, mais il n'y avait rien que ses 4 épingles et ce flacon d'eau de Cologne bon marché. Et pourtant, cela sentait comme une fleur, comme une jeune fille, comme peut sentir la chambre, ou plutôt le tombeau, le sarcophage d'une toute jeune fille, que l'on y aurait conservé intact, quoique prête à tomber en poussière au moindre souffle. Et alors, elle a fouillé dans un tiroir, et elle en a sorti non pas un coffret à bijoux, ni même un de ces coffrets d'acier comme on en vend chez le quincaillier à l'intention des paysans et des marchands de bestiaux qui ne veulent pas mettre leur argent à la banque, mais une boîte à biscuits ou à berlingots en fer, toute piquetée de rouille avec, dessus, une jeune femme vêtue d'une longue robe blanche à demi allongée sur l'herbe dans une pose à la fois langoureuse et raide, avec juste la pointe des pieds ou plutôt des souliers dépassant sous le dernier volant pudiques et ridicules, et couchée près d'elle, qui dans sa main tient une même boîte sur le couvercle de laquelle sa même image se répète comme dans ces jeux de miroirs sans fin, un de ces petits chiens blancs et frisés. Le tout, la dame, le caniche, la prairie, dans un cadre de fleurs et de rubans au nœud d'un bleu pervenche. Et, mais non, écoute. Il n'y avait naturellement pas de clé, et la boîte n'était fermée que par un long cordon enroulé 20 fois autour, qu'il lui a fallu un moment pour dérouler, serrant ensuite la boîte contre elle, tandis qu'elle s'escrimait avec ses mains maladroites et raides, essayant de l'ouvrir. Et toujours je pouvais sentir cette odeur de jeune fille de fleurs, cherchant des yeux le globe, la couronne de mariée, cherchant. Mais il n'y avait rien. Rien que cet entêtant et sans doute imaginaire parfum de fraîcheur, de virginité et de temps accumulé. Non pas perdu, vaincu. Ou plutôt surmonté, apprivoisé. Non plus cet ennemi héréditaire, omniprésent et omnipotent, et que l'on regarde terrifié s'avancer et s'écouler avec cette impitoyable lenteur, mais un vieux compagnon de route familier, peut-être, aussi craint et haï autrefois, mais il y a si longtemps de cela que le souvenir des craintes et des terreurs ressemble à celui de nos paniques enfantines, qui maintenant ne tire plus de nous qu'un sourire. Oui, je sais, ça ne va pas ensemble. Une jeune fille, les effluves de jasmin, et ce corps prêt à tomber en poussière, si familier du temps qu'il semble le temps lui-même, et ses mains jaunes et décharnées, et par endroits polis comme de l'ivoire, luttant contre leur propre maladresse et la rouille de la boîte, comme si la rouille et la maladresse n'étaient qu'une seule chose, toujours la même, les années, le temps. Jusqu'à ce qu'elle ait enfin réussi à l'ouvrir, fouillant alors dans son contenu non de bonbons gluants, mais de boutons dépareillés, de chaînettes d'or ou plaqués or, et de vieilles boucles de souliers en cuivre, et me la tendant enfin, pas dans une boîte, un écrin avec un nom de grand bijoutier comme celle que Georges, ou plutôt sa mère, m'avait offerte, et pas à moi en réalité, mais à eux-mêmes, se faisant un honorifique cadeau, parce que je suppose qu'il et elle auraient regardé comme le signe d'une déchéance que je porte au doigt quelque chose de moins de 500 000 francs. Et alors, même si elle le désapprouvait de m'épouser, quoiqu'elle n'en ait jamais rien dit ni laissé voir, lui ayant donné les 500 000 francs nécessaires, ou peut-être, pour plus de sûreté, ayant été elle-même la choisir, et ne la lui ayant remise qu'à la dernière minute, avant qu'il me la passe lui-même au doigt. Pas d'écrin, donc, mais un simple bout de ouate. Oui, c'est celle-là. Et je suppose que je n'en tirerai pas même 10 billets de 1000 chez un bijoutier. Et pourtant, je ne la vendrai pas pour le double, ni le triple, ni pour n'importe quoi. Quand je partirai, je leur, à lui et à sa mère, rendrai tous leurs bijoux. Je les mettrai en tas sur ma coiffeuse en partant. Ou peut-être je les lui jetterai à la figure. Non parce qu'il mérite que je les lui jette à la figure, mais parce que c'est cette sorte de geste qui aide dans ces moments-là. Mais celle-là, je dirai, je la garde. Parce que c'est elle qui me l'a donnée. Tu comprends? Elle ne m'a rien demandé et elle m'a donné cette bague. Elle m'a aimé. Et simplement parce que j'étais la femme de Georges. Et j'aurais pu être une putain, une duchesse ou une voleuse, elle m'aurait aimé de la même façon, et sans rien réclamer en retour. Parce qu'elle n'a jamais rien demandé aux autres, pas même qu'ils l'aiment, pas même la permission de les aimer. Pas plus qu'elle ne s'est permis de le leur dire, ou de leur manifester autrement que par la seule façon qu'elle put imaginer, c'est-à-dire en donnant ce qu'elle pouvait, et même ce qu'elle ne pouvait pas, s'arrangeant pour que ce qu'elle ne pouvait pas devint ce qu'elle pouvait. C'est pour ça que je suis resté. J'aurais quitté Georges depuis longtemps, même avant de te connaître, s'il n'y avait pas eu ça. Je ne dis même pas s'il n'y avait pas eu elle. Je dis s'il n'y avait pas eu ça. Et maintenant, elle va mourir. Et alors, il n'y aura plus rien. La voix s'arrêtant, s'interrompant brusquement, et Louise restant là, un peu haletante, comme surprise, furieuse d'avoir tant parlé, regardant toujours ce quelque chose que l'autre ne pouvait pas voir, qu'il savait qu'il ne pouvait pas voir, qu'il ne verrait pas, même s'il se retournait regarder à son tour par-dessus sa propre épaule dans la direction où semblait se trouver ce quelque chose. Et au bout d'un moment, un oiseau chanta tout près d'eux. Puis, aussi brusquement, le chant, une brève série de notes redoublées comme une arabesque calligraphiée, s'enroulant très vite plusieurs fois sur elle-même dans la répétition de la même boucle compliquée, puis s'échappant, s'élevant, s'étirant dans un long et péremptoire paraphe arrêté net, c'est ça, et, de nouveau, leur parvint le vacarme lointain et discordant des moineaux se rassemblant pour la nuit dans le bosquet de bambou. Jusqu'à ce qu'il fît tout à fait noir, ils restèrent là, debout. À un moment, il se rapprocha, fit un geste, et elle imagina leurs silhouettes obscures se confondant. Puis, un peu plus tard, comme s'il lui avait fallu ce temps pour se rendre compte qu'il la touchait, prendre conscience des mains sur elle, elle dit « Non, laisse-moi ». La voix à la fois dure, morne, absente. Et alors la plus grande des deux ombres recula, et entre eux deux, de nouveau, le ciel comme une plaque de verre striée en tous sens par les traits noirs des branches, tandis que de nouveau la voix s'élevait. Et toujours cette dureté, cette absence. Louise frappant rageusement du poing dans sa paume ouverte, disant dans le noir avec une sorte de véhémence d'un puissant désespoir, « Il m'avait promis que nous partirions d'ici, il m'avait promis que nous irions nous installer à Pau et qu'il, n'achevant pas, continuant seulement à frapper sa paume ouverte, n'attendant visiblement pas de réponse, puis cessant même de frapper. Jusqu'à ce qu'il leur fût impossible de distinguer leurs visages, leurs yeux, tous les deux cachés dans l'épaisse et verte obscurité sous les branches immobiles, l'auto caché plus loin derrière les grands arbres, un peu après le tournant. Mais impossible de se cacher quand ils traversaient le petit jardin ratissé, foulant les graviers, entre les tableries pollinées de blanc, les parasols rouges et blancs repliés, les deux petites filles à demi couchées dans les fauteuils, leurs coudes nus sur les accoudoirs trop hauts pour elles, balançant leurs jambes pendantes, les regardant passer, les suivant de leurs yeux fourbes, leur mère ne levant pas les yeux, elle de son tricot, ce qui était une façon pire, plus gênante encore de les regarder, et quelquefois, quand ils redescendaient, 5 ou 6 de ces types à gros ventre déjà congestionnés avant de commencer à manger la terrine, les truites, la spécialité de l'hôtel caché, rendez-vous seulement de quelques Parisiens en vacances, et les gros types interchangeables et congestionnés d'une classe sociale indéfinissable, tous entre 50 et 60 ans, amicales, congrès ou dîners d'affaires, un ou deux près de la fontaine dans l'entrée, lavant ou essuyant leurs grasses mains rougeaudes avec une bague ou une alliance en or, les regardant descendre l'escalier, détournant aussitôt les yeux, mais pas si vite qu'ils n'aient vu, se mettant tout à coup à parler plus fort ou faisant semblant d'examiner les gravures, les vieilles assiettes décorant le vestibule, l'escalier, les murs, les chambres peuplées de l'invisible, innombrable et inapaisable cohorte des pâles fantômes bovariens. Jusqu'à ce que, du bosquet de bambou, maintenant silencieux et noir lui aussi, ne leur parvint plus aucun bruit. Ni piaillement, ni battement d'ailes, ni murmure, ni même frôlement. Tout autour d'eux, complètement immobile à présent, ou plutôt tapis, c'est-à-dire le monde, choses, animaux, gens, non pas s'arrêtant, s'interrompant de vivre, mais poursuivant son existence compliquée, inquiétante et incompréhensible, sous cette forme rassurante et perfide de l'apparente immobilité. Comme, un peu plus tôt, le chat. Il ne détalait pas, restant là, sur la crête du mur écroulé, à la fixer, ramassé sur lui-même, parfaitement immobile. Seulement une tache, une forme rayée, tigrée, parmi l'éblouissante bigarrure des ombres hachurées du jardin, là où, l'instant d'avant, il y avait eu ce bond roux, la fulgurante matérialisation non d'un corps, d'un animal, mais de l'idée même de mouvement, dans la déchirure de soleil, puis plus rien. Comme s'il pouvait passer sans transition du mouvement à l'immobilité, ou plutôt comme si l'immobilité était en quelque sorte le prolongement du mouvement, ou mieux encore, le mouvement lui-même éternisé, capable sans doute de cela, transformer la vitesse même en sa représentation immobile, n'importe quand, au milieu d'un saut, d'une chute, en l'air, ne reposant sur rien d'autre que sur le temps, pour ainsi dire, solidifié, l'après-midi solidifié de l'été dans laquelle baignait, comme dans une sorte de formole, l'exubérante et sauvage végétation de ronces et d'éliantes, et lui aussi sauvage, froid, circonspect, se tenant dans cette posture semblable à une foudroyante condensation de la vitesse. Exactement comme une cartouche de dynamite renferme un million de fois son volume de bruit et de destruction, pétrifié, la fixant, l'épiant à travers ses deux étroites fentes verticales, ses pupilles en forme de lentilles qu'ont les chats, aiguë, acérée, et qui semble être comme une sorte d'arme, des griffes supplémentaires aiguisées, sans doute capables aussi de déchirer et de lacérer, mais qui, pour le moment, se contentaient de l'épier, le regard circonspect, cruel, vigilant et coire, ne la quittant pas, et elle se tenant là, debout, immobile dans sa robe claire, comme s'ils s'affrontaient tous deux, comme deux coupables, deux voleurs tombés nez à nez, l'un en face de l'autre, ou plutôt un voleur rencontrant à l'improviste sa propre image dans un miroir, l'intrusion soudaine d'une conscience. Pas d'hostilité a priori, pas de sympathie non plus, seulement l'expectative, la méfiance, peur et agressivité coexistant dans le même moment, parmi l'inconsciente et folle végétation des éliantes, leurs longues tiges s'entrecroisant, se bousculant, s'en mêlant, se détachant en clair sur le fond noir du fourré de ronces dans le bourdonnement des insectes.
J'ai remarqué dans cet article de Ludovic Janvier une explication des niveaux des images et des mots qu'il essaie de nous donner. Ce qui vient à nous depuis cette masse de mots, dit-il, c'est d'abord le désordre, le vrac. Immense foisonnement baroque, où une lecture superficielle, mais ici elle ne serait que myope, ferait ressortir la proximité et la myopie, précisément du regard accroché à la peau des choses et des êtres, et dont elle ne retiendrait qu'une suite d'images se télescopant au ralenti et de sons continuant à bruisser dans l'oreille. C'est déjà beaucoup.
Oui.
Un vaste corps sonore et visuel, appréhendé par la lecture et en même temps perdu à cause des dimensions. Puis, dit-il, une lecture attentive fait apparaître plusieurs niveaux. D'abord, et à l'opposé de cette myope appréhension, une anecdote se dessine. Puis, partie du sommeil lui aussi et tendant vers un autre sommeil, le narrateur qui habite la ville sort de chez lui vers 11h, etc., rencontre au bord du canal un vieil ami de la famille, va à sa banque, je suis obligé, hélas, d'en passer, pour se rendre en voiture au bord de la mer chez un cousin, à qui il doit faire signer un acte, revient à la nuit tombante, regarde quelques cartes postales, etc., etc., croise un ancien condisciple de pension, etc. C'est là la trame, et c'est là où je veux en venir, c'est là la trame, et ce n'est rien. Car ces précisions dont on peut se servir pour suivre la chronologie laissent échapper l'essentiel du livre dans lequel elles sont dispersées en repères infinitésimaux. Elles ne servent qu'à orienter dans le temps humain traditionnel, celui des horloges, le temps humain fondamental, la durée du parlant promeneur. C'est excellemment dit. Comme le dormeur de Proust, le parlant de Simon s'ébat dans les rêves et les mondes, quand il s'éveille, quand il s'endort, quand il erre dans une ville, quand il sent sa maison, quand il regarde des cartes postales ou mange au restaurant, il n'est pas une présence anecdotique ou une silhouette pittoresque, il est au passé, puisque pour Simon comme pour Proust, l'indicatif présent est impossible, tant le monde nous submerge. Le lieu commun d'une mémoire et d'une aventure. Un moment, il parle du foisonnant et rigoureux désordre de la mémoire.
Oui, foisonnant et rigoureux désordre de la mémoire, on pourrait, cette phrase de Lambier, on pourrait la rapprocher de ce que dit Proust de la mémoire involontaire.
Oui.
N'est-ce pas ?
Oui.
Qui fait elle-même cette sélection et qui extrait l'intemporel, n'est-ce pas ? Parce qu'elle sort du contingent.
Maintenant, je vais aborder une question bien différente. Je voudrais insister sur ce qu'a dit Ricardou et d'autres aussi, par exemple je pense à Michel Butor dans un essai sur les modernes quand il a parlé de vous, qui a parlé des calembours.
Oui.
Alors il y a ce calembour célèbre dans La Route des Flandres sur Saumur.
Oui.
Saumur, la Saumur.
Mm-hmm.
N'est-ce pas ? Alors je voudrais essayer d'expliquer aux auditeurs que ces calembours sont, en somme, des charnières.
Oui, c'est évident, mais j'aime pas beaucoup... ce sont des calembours, si vous voulez. J'appellerais ça des jeux de mots, mais dans le sens noble du mot « jeu », si vous voulez.
C'est le jeu du poète.
C'est le jeu du poète. C'est ce que je disais l'autre jour à propos d'un élément du collage de cheval qui est un noir et qui est un cheval. Là, ça marche sur le noir, si vous voulez.
Alors, dans celui de la Saumur, pourquoi est-il si caractéristique ? C'est parce qu'il y a l'école de Saumur.
C'est ça.
Qui est en même temps une école très stricte.
C'est ça.
Une école d'autorité, d'austérité, etc. Et un peu
rance et figée, comme les choses qu'on conserve dans la Saumur.
N'est-ce pas ? Alors, cette manière que vous avez, en poète du reste, chaque fois qu'un...
En poète, je vous arrête en poète parce que Mallarmé a dit chaque fois qu'il y a effort au style, il y a versification.
Oui.
Mais alors là, on me dit souvent, alors vous faites des romans poétiques, alors là je dis arrêtons,
oui,
parce
non,
que
c'est pas ça du tout.
Les choses comme les grands mots, c'est ce qu'on appelle le grand mot, n'est-ce pas, j'ai horreur de ça. Maintenant, si on s'en réfère à la définition de Mallarmé, chaque fois qu'il y a effort au style, il y a versification, alors on peut dire, oui, poème, si l'on veut, mais dans ce sens-là.
Certes, si vous faites des jeux de mots, en employant toujours le même mot avec des sens différents, certes, ce n'est pas parce que votre vocabulaire est restreint, parce que j'ai remarqué, au contraire, un vocabulaire très très riche. Par exemple, dans le palace, il est question de montrer que cet hôtel réquisitionné servait autrefois à une riche clientèle.
Le palace, oui. Bon.
Alors, vous parlez successivement des riches argentines, des riches brésiliennes, des vénézuéliennes milliardaires, des riches banquiers, des propriétaires de mines d'or, des milliardaires négriers, des divas en tournée. Tout cela, des mots différents, à peine différents, qui évoquent la richesse, n'est-ce pas? Alors, c'est une autre manière que vous avez de procéder. Je n'ose pas employer ce mot que vous n'aimez pas, mais enfin...
Disons de progresser.
De progresser.
Peut-être. C'est dans cette petite préface que j'ai écrite pour Orion, je dis chaque mot, c'est une sorte de carrefour. Un mot ne se présente pas seul, il se présente tout un accompagnement d'images. Et alors, je crois qu'il y a deux positions très différentes pour celui qui écrit, et peut-être ça pourrait définir toutes les deux courants du roman, si vous voulez. C'est-à-dire celui qui se dit, ben voilà, ce mot arrive, je m'en sers, je traverse ce carrefour à toute vitesse, avec ce carrefour qu'est le mot, avec en vue l'endroit que je veux aboutir. Mais si au lieu de ça, on s'arrête au carrefour et on regarde un peu toutes les directions, toutes les perspectives que vous ouvre ce mot, c'est une toute autre démarche.
Michel Bouquet va nous lire les dernières pages de la dernière œuvre de Claude Simon, Les corps conducteurs.
Entre les deux images, le centre de la vitrine est occupé par divers objets. Poterie au décor géométrique, statuette en terre cuite, rougeâtre ou ocre, représentant des personnages à la peau lisse et tendue par la graisse, accroupis, la tête légèrement renversée en arrière. Ils ont des yeux en grains de café qui ne laissent entre les paupières qu'une fente pour le regard, des visages plats, des lèvres d'une somnolente cruauté. Des ornements de plumes multicolores ainsi que quelques morceaux d'étoffe tissés à la main complètent la décoration de la vitrine où, sur la gauche, une jeune femme en contreplaqué découpé grandeur nature revêtue d'un uniforme bleu marine et d'un poncho rouge présente dans l'une de ses mains la maquette d'un avion en métal chromé. Un peu en arrière, des poteries indigènes est installée reposant sur deux chevalets de bois une grande maquette du même avion dont une partie du fuselage a été découpée, de sorte qu'à l'intérieur on peut voir de petites figurines d'hommes et de femmes assises sur les sièges tendus de drap bleu. Au-dessus de l'avion et occupant le milieu de la vitrine se trouve un panneau vertical, un peu plus haut que l'hôtesse de contreplaqué, sur lequel se trouve la reproduction d'un portulan où est représenté le continent américain. Les formes en sont plus trapues que sur les cartes modernes, mais néanmoins très reconnaissables. Leurs contours sont découpés dans coches qui s'enfoncent en coins, se prolongent parfois en golfes aux rives dentelées à l'intérieur des terres, où les noms des mouillages, des fleuves, des baies sont tracés en caractères gothiques à l'encre rouge ou noire, perpendiculairement au rivage. Écrit en lignes parallèles ou faiblement divergentes, parfois resserrées, parfois largement espacées, il forme comme une frange irrégulière le long de l'océan. Toute indication cesse à peu de distance de la côte en même temps que s'estompe la bande verte qui la borde, laissant place à la teinte jaunâtre du parchemin sur lequel sont peints des bouquets de palmiers, d'arbres touffus, des perroquets rouges, des singes, des dragons ailés, des oiseaux bleus ou bruns, des marais, des rivières méandreuses et des hommes au corps noir ou brique, occupés à ramasser du bois, faire du feu, danser en cercle ou chasser, armés d'arcs, de flèches et de boucliers, soit entièrement nus, soit vêtus de pagne, de manteaux et de coiffures faites de plumes alternativement vertes et orangées. Depuis un moment, l'avion s'est engagé au-dessus d'une couche de nuages au faible relief et assez mince, une plaque plutôt, qui s'étend à perte de vue vers le large et s'arrête à gauche, coupée net en une ligne rigoureusement droite comme le bord d'une table, à peu près parallèle à la côte. Au-delà, on peut voir l'océan qui s'est maintenant légèrement grisé. À l'horizon, la mince ligne ondulée d'un brun lilas que dessinait la haute chaîne de montagne a disparu. Le hublot, qui a la forme d'un rectangle aux coins arrondis, encadré d'une moulure de matière plastique, est divisé en deux parties à peu près égales par la ligne de l'horizon. La moitié inférieure est occupée en bas par l'étendue blanche du plateau de nuages au-dessus de laquelle semble peinte comme une plainte une bande gris-bleu. La moitié supérieure est tout entière remplie par le ciel d'un bleu très pâle, absolument pur, où rien ne permet de soupçonner l'existence des invisibles constellations, des monstres composites mi-hommes, mi-chevaux, mi-boucs, mi-serpents, des crabes aux pinces grandes comme des chaînes de montagne, des déesses et des géants. Quelque part, cependant, solitaire et aveugle, dans le vide immense, Orion poursuit sa marche. De la main droite, il tient par le milieu un arc dont les extrémités se relèvent en S. Un carquois cylindrique de bronze pend à son côté. Pour rendre l'éclat du métal, le peintre a posé sur son couvercle une épaisse touche jaune citron et un reflet d'un jaune plus éteint s'allonge sur l'une des génératrices du cylindre. Le géant s'avance sur le chemin entre des rochers et des souches déchiquetées d'arbres abattus par quelques tempêtes. Ses pieds musculeux, comme sculptés dans un marbre rougeâtre où courent des lacis de veines, sont aussi grands que les souches aux racines convulsives, à l'écorce écailleuse. À quelques pas devant lui, le chemin plonge et disparaît dans le repli de terrain où se tiennent les deux petits personnages dont dépassent les bustes. À cette dépression succède une colline herbue au sommet couronné d'arbres, puis un lac ou le fond d'un golfe, que l'on voit luire entre les masses opulentes des feuillages. Puis, sur l'autre rive du lac, un nouveau bouquet d'arbres. À la vitrine de la compagnie aérienne succède, dans un vague brouillard, un entrepôt aux vitres dépolies, un magasin de confection pour hommes, un immeuble d'habitation sans boutique, un bar, un marchand de chaussures, une blanchisserie, une échoppe où l'on vend des hot-dogs et du Coca-Cola. Tout au fond, le bout de la longue tranchée de pierre et de briques où les trois hautes cheminées fument lentement dans le ciel blanc recule sans cesse. Escaladant la colline que l'on aperçoit dans le lointain sur la gauche du tableau et déjà touchée par les rayons du soleil levant, le chemin que suit Orion ressurgit en une mince ligne claire qui s'élève en serpentant. Après avoir dessiné pendant une fraction de seconde un losange parfait, le parallélogramme citronné que le soleil, de plus en plus haut au-dessus de la cime des pins, projette sur le mur de la salle de bain, commence à s'amincir, ses côtés supérieurs et inférieurs raccourcissant en même temps que ses côtés verticaux se rapprochent lentement. Une fois ressentie la légère secousse du départ, rien n'indique que la cabine de l'ascenseur aux portes fermées s'élève, sauf les chiffres disposés sur une ligne non pas verticale mais horizontale au-dessus des deux panneaux d'acier hermétiquement joints comme ceux d'un coffre-fort et qui s'allument et s'éteignent. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, l'un après l'autre. Appuyé contre la paroi du fond, il peut voir sa silhouette imprécise reflétée sur la surface du métal poli. Presque toutes les chaises alignées le long du mur de la salle des débats et réservées aux auditeurs sont vides. Quelques-unes ont été rapprochées des cercles formés par certains délégués avec lesquels discutent leurs occupants sans prêter attention à l'orateur qui, penché vers son micro, lit d'une voix monotone une longue déclaration. La nappe de fumée bleuâtre semble avoir encore épaissi et s'être abaissée sous son poids, comme un plafond qui s'affalerait lentement, réduisant encore le cubage d'air déjà difficilement respirable. Dans un coin, un journaliste parle à voix basse à l'une de ses confrères dont il a entouré les épaules de son bras. La jeune femme a toujours son bloc appuyé sur sa cuisse croisée, mais la main qui tient le stylo ne remue plus. Un vague sourire sur les lèvres, elle écoute ce que lui dit son compagnon. Quelques-uns des délégués sommeillent, d'autres feuillettent sans conviction les journaux du soir qu'ils ont déjà lus, ou, tassés sur leur siège, fixent de leurs yeux aux paupières rougies le tapis vert de la table souillé de cendres. Il semble qu'une lueur grise commence à filtrer entre le côté de l'une des fenêtres et le bord mal joint peut être dérangé par le frottement d'une chaise, du rideau de velours qui l'aveugle. Un de ses bras tendus en avant, tâtonnant dans le vide, Orion avance toujours en direction du soleil levant, guidé dans sa marche par la voix et les indications du petit personnage juché sur ses épaules musculeuses. Tout indique cependant qu'il n'atteindra jamais son but, puisque, à mesure que le soleil s'élève, les étoiles qui dessinent le corps du géant pâlissent, s'effacent, et la fabuleuse silhouette immobile à grands pas s'estompera peu à peu, jusqu'à disparaître dans le ciel d'aurore. Aucune annonce de l'aube ne filtre par ailleurs aux autres fenêtres qui s'ouvrent à intervalles réguliers entre les fûts cannelés des fausses colonnes et qu'obstruent les lourds rideaux marrons. À intervalles réguliers, les portes identiques d'un bois marron et verni s'alignent des deux côtés du long couloir au mur peint d'une couleur crème, au sol recouvert jusqu'à la hauteur des genoux de l'omniprésente matière grisâtre, épaisse, visqueuse, plutôt que neigeuse, qui rend la marche difficile et étouffe le bruit des pas. Une coupe longitudinale pratiquée derrière l'un ou l'autre des murs dans la suite des chambres qui se succèdent à droite et à gauche permettrait de voir les pièces toutes semblables, aux mobiliers identiques, les unes vides, les autres occupées par des hommes ou des femmes. Certains en train de se laver les mains ou de se brosser les dents, d'autres défaisant ou refermant des valises, d'autres écrivant des lettres, d'autres encore assis dans les fauteuils ou étendus déchaussés sur les lits en train de feuilleter des journaux ou des magazines.
Revenons à vos critiques. À les lire, on se perd un peu. Il y a ceux qui vous conseillent de faciliter le travail au lecteur et vous accusent bien légèrement de ne point avoir fait le travail. Comme oui. Si ce que vous donnez était...
Compliqué à plaisir.
Compliqué à plaisir et surtout un fatras sans queue ni tête, disons les choses comme nous les avons lues dans certaines critiques.
Eh bien oui, il est sans queue ni tête si on s'en réfère à toujours, nous en revenons toujours à la même question, si on se réfère au roman traditionnel. Évidemment, c'est sans queue ni tête. Si on cherche à reconstituer une histoire dans le temps des horloges, ça apparaît sans queue ni tête. Mais si on cherche, au lieu de ça, si on cherchait un objet textuel, je vois qu'on peut s'apercevoir que c'est au contraire beaucoup plus cohérent. Et moi, je trouve plutôt sans queue ni tête souvent l'écriture de romans traditionnels.
J'aurais dit qu'il y a chez vous parfaite correspondance entre la forme et le fond, parce que nos critiques modernes ne permettent plus cette distinction, je ne le dis pas, et vous moins encore. Mais dans La Route des Flandres, la correspondance est particulièrement sensible, selon les mots de Ricardou, de cette désorganisation générale avec cette matière verbale en décomposition.
Oui.
Dislocation du discours, désorientation de l'espace, déchronologie du temps, tout concourt au chaos. Libéré du carcan d'une signification monovalente, le langage de La Route offre une possibilité indéfinie de signification, tout y concourt.
Oui, là, c'était extrêmement bien vu. Et là, c'est une des choses, parce que Ricardou a un don admirable de la formulation, qui aide à comprendre qu'entre la forme et le fond, il n'y a pas de différence, n'est-ce pas ?
Il n'y a pas. Pensez-vous, comme Ricardou, que votre écriture exige ce qu'il appelle une lecture littéraire ?
Je voudrais voir dans quel contexte il a dit ça. Peut-être il voulait l'opposer au toujours la même histoire. au roman qui raconte une aventure, comme on pourrait opposer la nature morte. Non, j'en reviens toujours parce que c'est le thème le plus simple. La nature morte de Cézanne, où il y a trois pommes sur une table, aux vastes compositions avec des chevaux, des cavaliers, ou le Christ, ou les noces de Cana, n'est-ce pas ? Il n'y a qu'à... Écoutez, je ne sais pas si vous entendez la musée, les commentaires que font les guides des musées à ces troupeaux de visiteurs. Il leur dit, voilà, là, c'est Charles Quint, il a une armure damasquinée, il porte la barbe, c'est au moment, avant qu'il signe tel traité, à ce moment-là. C'est,
ça n'a rien à voir.
Rien à voir avec la peinture, et les gens ne regardent pas la peinture d'une façon picturale. Et je crois que c'est ce que Ricardou a voulu dire, tandis que quand il n'y a que trois pommes sur une table, il faut bien les regarder d'une façon picturale, n'est-ce pas ? Parce qu'il n'y a que la peinture seule, il n'y a pas une anecdote. Je pense que c'est cela qu'avait voulu dire Ricardou.
Maintenant, Michel Bouquet va nous lire un important passage du Palace.
Il n'avait pas compté sur le paravent, ou s'il l'avait vu, l'avait oublié. Le découvrir, alors qu'il croyait déboucher dans la lumière, obscure, infranchissable, racontant que ce fut le seul moment où il éprouva quelque chose comme de la panique, la sensation d'être pris au piège. Mais, en somme, réfléchit-il plus tard, ni plus ni moins que n'importe qui engagé dans une porte-tambour aux prises dans le bruit des pales tournantes et de l'air froissé avec cette sorte de vertige, cette angoisse de la claustration du tourbillon. Pendant une interminable fraction de seconde, tandis que son esprit cognait, butait avec un furieux désespoir contre cette chose, cette muraille, cet obstacle qu'il n'avait pas prévu ou qu'il avait oublié, pensant dans un élan de frénétique indignation, de stupeur, quoi, qu'est-ce que c'est ? Il se crut joué, ou trahi, déjà prisonnier, ridiculement, avant même d'avoir pu commencer à accomplir ce pourquoi il était venu. Jusqu'à ce que, levant les yeux, il découvrit la ligne sinueuse que dessinait le faîte du paravent qu'il avait figuré sur son croquis par un trait ayant la forme d'un serpent. Alors qu'en réalité, la disposition de celui-ci en projection plane était, il rectifia, celle d'un S couché et irrégulier, l'un des ventres le plus important suivant une courbe à peu près concentrique à celle du tambour, l'autre courbe, plus courte, se retournant en sens inverse vers l'intérieur de la salle. Mais sur la droite, du moins, il ne vit que cette ouverture, tandis que la table vers laquelle il projetait de se diriger directement, sitôt la porte franchie, était à gauche. De sorte que, poussé à la fois par le besoin primaire et réfléchi de s'évader du traquenard que constituait la porte-tambour et le paravent, et par le sentiment tout aussi réfléchi de l'urgence, du temps perdu, de la nécessité de faire vite, il s'élança dans le passage libre, faisant irruption à l'intérieur de la salle, non pas bien sûr au pas de course, il avait tout de même gardé suffisamment de contrôle, mais d'une façon sans doute un peu trop vive. Et alors, ceci, la table avec ses trois dîneurs, dont l'un de dos, maintenant séparé de lui par à peu près 7 mètres de vide, celui qu'il devait tuer, tenant en ce moment son verre à la main, légèrement tourné vers la femme à laquelle il parlait, n'ayant donc par conséquent prêté aucune attention à son entrée trop rapide, mais par contre, sur la droite, un maître d'hôtel. Il ne dit pas maître d'hôtel, mais un garçon avec un costume noir. En train de le regarder, le visage empreint, à vrai dire, d'une expression pour le moment plus perplexe ou ennuyée qu'alarmée, raconta-t-il, l'examinant de haut en bas de cet œil professionnel, en même temps rapace, calculateur et servile, tous deux, lui et le maître d'hôtel, se trouvant à peu près face à face un court instant, lui et la pastille noire, près de la boucle terminale de l'S du paravent, le maître d'hôtel une pastille blanche, à droite par rapport à lui, du meuble central, la desserte ou le dressoir couronné de fruits exotiques, tous les deux se mettant en mouvement simultanément en suivant des trajets qu'il représenta par deux vecteurs courbes venant presque se toucher, comme les roues d'un engrenage, c'est-à-dire tous deux amorçant au départ un trajet rectiligne. Le maître d'hôtel pour s'avancer à sa rencontre, lui pour se diriger vers la table, et se trouvant peu à peu et au fur et à mesure de leur progression forcée de l'infléchir. Le maître d'hôtel parce que le client, ou plutôt l'intrus, au lieu d'attendre qu'il vînt à lui, se déplaçait vers la gauche, la droite du maître d'hôtel, et lui parce que le maître d'hôtel en s'avançant, passant devant la desserte, finit par se trouver presque sur le trajet, la ligne droite reliant l'extrémité du paravent à la table visée, qu'il avait commencé de suivre, menaçant de l'intercepter, pas encore vraiment effrayé, seulement sans doute de plus en plus ennuyé, commençant à froncer les sourcils, de sorte qu'il se trouva forcé d'infléchir encore plus son parcours vers la gauche, dans l'espoir de contourner le maître d'hôtel en le prenant de vitesse, et alors, sur sa droite, le plastron en V, immaculé et étincelant, rigide comme une armure entre les deux revers de soie noire, géométrique et paradoxalement dessiné avec précision, sans doute parce que c'était sur lui que, pour le moment, se concentrait toute son attention, et s'avançant inexorablement vers lui, tandis que, par contre, son but, la table et les trois dîneurs, lui apparaissaient plus confusément, sous la forme de taches un peu floues, soit, de gauche à droite, une coulée lumineuse, un coin de la nappe, sur laquelle étaient posés verre, carafe, bouteille, et probablement un verre, le vin au contenu couleur rubis, des choses accrochant des reflets, puis, directement au-dessus, la chair, le bras et les épaules nus, légèrement blondes de la femme, comme trois larges touches de pinceau d'une pâte crémeuse, plutôt même posées, écrasées chacune d'un coup de couteau à palette, de part et d'autre, et au-dessus d'une autre tache, à peu près carrée, bleu lavande, le corsage ou le haut de la rampe, le visage maquillé lui-même et son casque de cheveux plaqué, pas plus précis qu'un chatoiement de touches brouillées, violentes, rouges, bruns, roses, puis, immédiatement à droite, au premier plan, un large rectangle gris, le dos du troisième dîneur surmonté d'un rectangle plus petit et presque noir, sa tête, ses cheveux, qui masquait en partie le visage de l'autre homme, celui qu'il devait tuer, dont il ne pouvait voir ou plutôt deviner que les yeux, c'est-à-dire deux taches sombres. Le front, les tempes dégarnies, les cheveux très noirs, plaqués en arrière, reflétant les lumières, tandis que sur sa droite, l'implacable V dessiné au cordeau. Relevant la tête de sur son dessin, disant « En quoi s'est fait ces plastrons, en tôle passé au ripolin ou quoi ?» continuait toujours à se rapprocher. Mais il possédait une légère avance. Il pressa le pas. Le maître d'hôtel, le V ripolliné, disparaissant de son champ de vision, maintenant un peu en arrière de lui, quoiqu'il accélérât aussi le mouvement. Tous deux, donc, non pas encore courant, mais se déplaçant, marchant très vite à une allure franchement inhabituelle, insolite dans un pareil endroit. 4 mètres à peine à présent le séparant de la table, au moment où sur la gauche de son champ visuel, tandis qu'il pouvait toujours sentir invisible mais pressant, le maître d'hôtel lancé à sa poursuite, hésitant encore à courir, empêché sans doute de le faire, retenu par quelque vieux réflexe professionnel de décence ou de crainte du scandale qui le lui interdisait, mais devina-t-il, prêt à le faire si lui-même l'avait fait, comme il avait, au même moment que lui et sur le même rythme, allongé le pas. Apparu, plus haut que le coin de nappe et sur la gauche, une seconde tache blanche, le spencer d'un serveur, celui qu'il avait figuré sur son plan par une petite pastille entre les rectangles des deux tables, qui se mit à se déplacer, peut-être de sa propre initiative, peut-être obéissant à un signe du maître d'hôtel, vers la droite. Le pantalon noir venant s'interposer entre la table et lui, l'obligeant à changer rapidement son plan. Il ne voulait blesser ni la femme, ni le troisième dîneur, avait donc d'abord pensé atteindre le bord de la table et tirer entre eux deux. Mais ce n'était plus possible, et il lui fallait à présent compter avec 3 obstacles. 2 mouvants, le garçon et le maître d'hôtel, et 1 fixe, le troisième dîneur, qu'il voyait maintenant presque de profil, et qu'il entreprit de contourner, courant franchement alors, vaguement conscient de la confuse rumeur, voix plus haute, pas encore cri d'étonnement, pas encore d'effroi, qui commençait à s'élever des tables autour de lui, exécutant donc un léger et brusque à droite, voyant alors défiler devant lui, premièrement, la tache blanche de la veste du garçon, soit que celui-ci hésitât, se fût arrêté, soit que lui-même se déplaça alors tellement vite que par rapport à la sienne, la vitesse du garçon était presque nulle, ce qui faisait que sa silhouette reculait à présent vers la gauche de son champ visuel. Deuxièmement, un instant, la femme. Non plus des plaques de couleurs suaves et floues, comme un peu plus tôt, brouillées, mais des détails, des fragments précis. Un bracelet, le creux nacré, marbré, séparant les seins dans le décolleté, la main levée tenant une fourchette. Troisièmement, un morceau de moleskine rouge, brillante et d'une matière légèrement grumeleuse qui recouvrait le dossier de la banquette dans l'intervalle entre la femme et son voisin. Quatrièmement, pendant un instant plus court encore, car il fut presque aussitôt caché par le dos du troisième dîneur, le buste de l'homme qu'il devait tuer, son verre à demi rempli de vin couleur rubis, toujours dans sa main, comme le moment d'avant, le coude appuyé sur la table, le visage non plus tourné maintenant vers sa voisine, mais le regardant, lui, l'Italien, les deux prunelles, qu'il pouvait distinguer avec précision, et non plus seulement les deux taches d'ombre sous les arcades sourcilières, noires, brillantes, durcies au-dessous les poches de peau plissée, le suivant en tournant, tandis que, cinquièmement, la chevelure du troisième dîneur s'interposait, cachait le bas du visage jusqu'à la base du nez environ, les cheveux cosmétiqués, étincelants, le bourrelet de graisse repoussé sur la nuque par le col dur au-dessous de l'occiput à la peau blanche, ou plutôt grisâtre, piqueté de poils noirs, courts et drus, chevelure, nuque, repli et dos glissant très vite de droite à gauche, comme une silhouette découpée dans du carton, ou comme lorsqu'on regarde par la fenêtre d'un train en marche les buissons, les arbres des premiers plans défilant rapidement devant l'horizon immobile, démasquant la tête tout entière, puis le buste de l'homme sur la banquette qui apparut de nouveau. Puis il entendit une femme crier, mais pas celle qui était assise à côté de l'homme, comprenant tout à coup pourquoi le garçon avait ralenti, cessé d'avancer, se rendant compte qu'il tenait à présent son revolver à la main, incapable de se rappeler à quel moment il l'avait sorti, tout s'immobilisant alors pendant un temps qui lui parut très long, et où il se souvint d'être resté là, étonné que ce fût déjà le moment, presque surpris, désorienté, non pas hésitant, mais comme ahuri, paralysé, lui sembla-t-il, pensant non pas « je ne peux pas tuer cet homme », mais je ne sais pas comment le faire, s'attendant, sans être capable d'un mouvement, à ce que le maître d'hôtel, qu'il sentait maintenant tout près de lui dans son dos, le ceinturât par derrière et le mit dans l'impossibilité d'agir. Toutes ces choses dans un silence devenu complet, de sorte, dit-il, qu'en réalité, cela n'avait même pas dû se produire. Ce long moment pendant lequel, se tenant alors debout à la droite du troisième dîneur et exactement en face de celui qu'il devait tuer, il se trouva dans l'incapacité absolue de faire le moindre geste. Sinon dans son esprit, car il était peu vraisemblable que la femme se fût arrêtée de crier, au contraire, et même sans doute d'autres avec elle maintenant. Pas plus que le maître d'hôtel n'avait dû cesser de le poursuivre pour essayer de le maîtriser, ce qu'il fit l'instant d'après. Simplement pour lui laisser le loisir de rassembler ses esprits, de se décider et de transmettre l'ordre à sa main. Pourtant, il dut bien se passer quelque chose de ce genre, raconta-t-il, puisqu'à présent, la table basculait vers lui dans un fracas de vaisselle brisée, et qu'en face de lui, il pouvait maintenant voir celui qu'il devait tuer, non plus assis, mais debout, c'est-à-dire pas tout à fait, à demi dressé, ce qui signifiait qu'il avait eu le temps, lui, de faire cela, commander à ses muscles, et les muscles, celui d'obéir, d'exécuter, à moins que les jambes se fussent tendues toutes seules, se fussent chargées sous leur propre responsabilité de le soulever, comme s'il était déjà mort, comme ces mouvements ou contractions réflexes qui se produisent alors qu'il n'y a déjà plus aucun cerveau ni aucune volonté pour décider et ordonner, les cuisses heurtant le bord de la table, celles-ci partant en avant, mais le poids de sa masse, la force d'inertie se transmettant par contre-coup, communiquant au corps une poussée en sens inverse, de sorte qu'avant d'être parvenu à se mettre tout à fait debout, il fut renvoyé en arrière, le bras droit, tâtonnant derrière lui contre le dossier de la banquette pour trouver un appui, le revolver de gros calibre tressautant alors, se mettant à donner une série de coups violents dans sa main à lui, l'Italien, comprenant alors qu'il était bel et bien en train de faire ce que l'instant d'avant il croyait, continuait encore à croire, dit-il, tandis que ce revolver sautait et cognait au bout de son bras raidi, tirant. « Pas lui, dit-il encore, sa main toute seule, non pas à la hanche, comme dans les films de gangsters, mais comme on le lui avait recommandé, tendu en avant de lui, à bout de bras, visant soigneusement le revers du veston un peu au-dessus de la mire qu'il pouvait voir se relever brusquement à chaque coup, en train de faire donc ce qu'il croyait ne pouvoir jamais arriver à faire, ce que sa main et son œil exécutaient, mais par lui.
C'était Écrivain du XXe siècle, Claude Simon par Francine Mallet, texte lu par Michel Bouquet, deuxième volet, première diffusion sur France Culture, 23 août 1971. Thank you.